Nous venons de fêter Noël, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu envoyé par le Père Céleste pour nous rejoindre, hommes et femmes, dans notre humanité. Après la naissance de Jésus, Matthieu nous raconte la visite des mages venus d'Orient avec des trésors à offrir dignes d'un roi. Hérode, le roi de Judée de l'époque, aux ordres de l'occupant romain, ne souhaite pas voir grandir un rival potentiel dans son royaume. Ne pouvant localiser l'enfant qui vient de naître, il ordonne, avec un maximum de cruauté, la mise à mort des moins de 2 ans sur tout son territoire. Un ange du Seigneur ordonne à Joseph de fuir en Égypte et d'y rester quelque temps en attendant la mort d'Hérode. Cette histoire de l'enfance de Jésus que nous retenons facilement grâce au conte de Noël avec l'âne qui boitait que Rachel a lu dimanche dernier. Luc est plus précis sur les circonstances de la naissance de Jésus, qu'il replace dans l'histoire et dans la géographie de l'époque. Je vous invite à regarder et écouter cette vidéo d'introduction sur les 2 premiers chapitres de l'Évangile de Luc. Une vidéo du Bible Project, si vous êtes familier avec Bible Project. Je vois ça devrait marcher.
Luc a minutieusement collecté 1000 comptes rendus des plus anciens témoins oculaires de la vie de Jésus, pour ensuite compiler son récit.
L'histoire débute dans les collines de Jérusalem, là où, selon les anciens prophètes d'Israël, Dieu lui-même viendrait un jour pour établir son royaume sur toute la terre.
Dans cette ville se trouve le temple administré par les prêtres. Un jour, l'un d'eux, Zacharie, est en service au temple quand soudain, il a une vision qui l'affole. Un ange lui apparaît et lui annonce que sa femme et lui auront un fils. Comment ça?
On apprend que Zacharie et sa femme étaient très avancés en âge et qu'ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Luc fait un parallèle avec Abraham et Sarah, les patriarches d'Israël, car eux aussi étaient très avancés en âge et n'avaient pas réussi à avoir d'enfants.
Jusqu'au jour où Dieu leur a donné un fils, Isaac, marquant ainsi le point de départ de toute l'histoire d'Israël.
Donc, Luc sous-entend ici que Dieu est à nouveau sur le point de faire quelque chose d'aussi grandiose pour ce peuple.
L'ange prescrit à Zacharie d'appeler son fils Jean.
Et l'ange de prédire que ce fils accomplira la promesse des anciens prophètes d'Israël, selon laquelle une personne émergera un jour pour préparer Israël à rencontrer son Dieu lorsqu'il viendra régner à Jérusalem.
Car pour l'heure, Israël est dirigé par les Romains.
Exactement. Plus précisément par Hérode, un roi fantoche à la solde de l'Empire romain. Alors que les Juifs n'avaient pas de vœu plus cher que de retrouver leur liberté et d'être dirigés par un roi bien à eux sur leur propre territoire.
Cette nouvelle résonne comme une onde de choc. Tout va être bouleversé, car Dieu est en marche. Mais en fait, comment va-t-il arriver?
Eh bien, pour le savoir, Luc nous emmène hors de Jérusalem, puis dans une petite ville située sur les collines d'une région reculée appelée Galilée. Là, on fait la connaissance d'une jeune femme appelée Maria, ou plus communément Marie. Une jeune fiancée qui était sur le point de se marier.
Quand un ange lui apparaît, il lui annonce qu'elle va avoir un fils.
Qu'elle devrait appeler Jésus. Ce qui en hébreu veut dire « l'Éternel sauve ». Il sera un roi comme David et son règne sur le peuple de Dieu sera éternel.
Puis Marie demande mais comment est-ce possible puisque je suis vierge?
L'ange lui dit que le même Saint-Esprit qui a ressorti la vie et la lumière à partir des ténèbres en Genèse 1 va engendrer la vie dans ses entrailles. Dieu est sur le point de se lier à l'humanité à travers la conception et la naissance du Messie.
Donc Marie, une totale inconnue venant de nulle part, va sortir de l'anonymat pour devenir la future mère du roi.
Exactement. Elle chante même un cantique dans lequel elle déclare que le bouleversement de son statut social présage d'un bouleversement imminent de plus grande envergure. Dieu, par son fils, va renverser les dirigeants pour élever les pauvres et les humbles. Il va complètement inverser l'ordre mondial.
Alors, quand Marie est tombée enceinte, elle et son fiancé Joseph devaient descendre à Bethléem.
Oui, un décret sur les nouvelles taxes obligeait tout le monde au sein de l'Empire romain à aller se faire recenser dans sa ville d'origine.
Et il y avait tellement de visiteurs à Bethléem pour cette occasion qu'ils n'ont pu avoir aucune chambre de libre.
Le seul endroit qu'ils ont pu trouver était une étable, là où dorment les animaux.
Et non loin de là se trouvaient les bergers avec leurs troupeaux, quand tout à coup, un ange apparaît. Ils sont bien entendu effrayés, mais l'ange les invite à se réjouir car cette même nuit, un sauveur est né à Bethléem.
Ouais, il leur dit d'aller trouver ce bébé qui est le Messie, et qu'ils le reconnaîtront en le voyant emmailloté dans une mangeoire d'animaux.
Plutôt crasseux comme cadre.
Naturellement. Par la suite, ces bergers, tout aussi malpropres, finissent par trouver le nouveau-né dans le lieu répugnant indiqué. Mais ça ne les empêche pas d'être sidérés par leur expérience. Ils retournent chez eux en se demandant « C'est quoi ce truc de dingue qui se prépare ?»
Tout ça est vraiment bizarre. En fait, si Dieu doit vraiment venir sauver le monde, personne ne s'attend à ce que les choses se passent ainsi. Il naît dans une étable d'une jeune mère quasiment adolescente et il est accueilli par des bergers anonymes.
C'est tout à fait ça. Dans le récit de Luc, tout est fait à l'envers. Et c'est le but en fait. Il souligne que le royaume de Dieu s'est révélé en premier lieu dans ces endroits malpropres, parmi les pauvres, justement parce que le salut apporté par Jésus inverse complètement notre ordre mondial.
Après sa naissance, donc, Jésus a été circoncis le huitième jour. Il a été présenté au temple comme enfant mâle premier-né qui devait être consacré au Seigneur. Un peu comme Samuel que nous avons lu tout à l'heure. Pour Samuel, on a tué des taureaux. Et ici, c'est simplement deux tourterelles et deux pigeons qui ont été offerts en sacrifice pour l'occasion, selon les prescriptions de la loi du Seigneur, selon Luc 2, verset 24. Siméon peut s'en aller en paix, car ses yeux ont vu Jésus, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, Luc 2, verset 32. Anne loue Dieu et parle de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Luc tient vraiment à ancrer le ministère de Jésus dans l'histoire de l'humanité et au milieu des hommes et des femmes qui vivaient dans l'attente de la venue du Messie annoncée par les prophètes. Matthieu, lui, nous parle de la généalogie de Jésus pour souligner que Jésus fait partie du projet de Dieu. 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, on part d'une personne et on arrive à un peuple avec un territoire et une loi donnée par l'Éternel, un roi, un palais, une administration, une armée et bientôt un temple. Ensuite, 14 générations de David à la déportation à Babylone, un déclin irrémédiable, sombre et désespérant pour la nation d'Israël. Et finalement, 14 générations de la déportation à Babylone à la naissance du Messie annoncé par les prophètes pour une nouvelle espérance pour toute l'humanité. Jésus est né bébé dans une étable et il grandit. Je vous invite à lire Luc 2, versets 39 à 52. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'enfant est né, il a échappé à la cruauté d'Hérode. Joseph et Marie essaient de l'éduquer, de l'accompagner pour qu'il devienne une bonne personne. Grandir, se remplir de sagesse, et pour Jésus, on pouvait déjà voir que la faveur de Dieu reposait sur lui. une belle image de la famille. Le papa Joseph, la maman Marie et un enfant Jésus bien élevé. Les histoires familiales bibliques sont souvent plus complexes. Et la réalité des tensions et des dysfonctionnements familiaux ne sont pas ignorées ni cachées. Ne serait-ce qu'en revenant sur la généalogie de Jésus, qui cite en particulier quatre femmes au milieu d'une quarantaine d'hommes à la vie compliquée. Tamar, dont il est dit qu'elle avait une relation incestueuse, Rahab, prostituée à Jéricho, Ruth, une étrangère moabite, et Bathsheba à la relation adultérine avec David. Mais ces parcours de vie, qui ne sont pas des modèles de vertu, annoncent un évangile de grâce dans lequel il arrive que des femmes de petite vertu, si on peut dire, qui ont été généreuses, soient plus considérées devant Dieu que les bons religieux à la façade irréprochable. Toujours est-il que pour Marie, Joseph et leur enfant, ça se passait plutôt bien. Chaque année, une excursion à Jérusalem pour la fête de Pâques, à pied, en groupe, pour participer aux réjouissances qui commémoraient la libération de l'esclavage et la sortie d'Égypte d'un peuple opprimé, selon le projet de Dieu pour la descendance d'Abraham. Une bonne centaine de kilomètres à vol d'oiseau, plusieurs jours de marche sous la chaleur et dans la poussière, la traversée de la vallée de Baca, peut-être, comme nous avons lu dans Psaume 84, la vallée des larmes, qui se transforme en un lieu plein de sources avec l'arrivée à Jérusalem pour ces moments de fête qui marquent l'année. Malgré les chantiers en cours, malgré les commandes en retard, Joseph le charpentier s'arrête tous les ans et emmène sa famille à Jérusalem. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. L'homme n'est pas fait pour passer sa vie à travailler pour accumuler et accaparer des richesses. Le travail est nécessaire, mais se souvenir de ce que Dieu a fait dans l'histoire pour transmettre ses connaissances aux générations montantes font partie de cette bonne loi que Dieu a donnée à Israël. Le temps a passé. Jésus a 12 ans. Traditionnellement, c'est une étape dans la vie des garçons où ils deviennent aptes à participer au culte dans la synagogue. Un peu comme s'ils devenaient majeurs pour cette partie de leur vie. Il n'est rien dit dans le texte du déroulement des jours festifs de cette année-là. Mais le retour est chaotique. Après une journée de marche, il est temps de rassembler la famille et Jésus manque à l'appel. Grand coup de stress pour Marie et Joseph. On l'appelle, on le cherche. Il n'est pas avec les copains, ni les cousins, ni les voisins. Jésus est égaré. Fugue, accident, enlèvement, c'est l'affolement. Il faut rebrousser chemin. Marie et Joseph sont des bons parents, responsables. Le texte ne le dit pas, mais c'est bien un moment de crise pour le couple. Qui est responsable? C'est toi, c'est moi, t'aurais pu, t'aurais dû, c'est toujours pareil, etc., etc. Jésus n'est plus dans le groupe, il faut retourner à Jérusalem. Cela peut nous arriver également. Si nous avons l'impression que Jésus n'est plus à nos côtés, il nous faut rebrousser chemin et revenir vers la source, vers l'endroit où la parole de Dieu est présente et annoncée. Au bout de 3 jours, Jésus est retrouvé dans le temple, au cœur de la pratique religieuse de l'époque, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Marie et Joseph hésitent. Entre soulagement de le retrouver et besoin de le réprimander. Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Et Jésus, à 12 ans, répond: ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Le texte nous dit que Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et oui, il est loin le temps où l'ange annonçait à Marie qu'elle enfanterait le Fils de Dieu, mais au fond de son cœur, la remarque de Jésus, maintenant qu'il a 12 ans, lui rappelle qu'il accomplira le projet de Dieu pour lequel il est sur terre. Retour à Nazareth, tout va bien, Jésus est à nouveau un enfant soumis à ses parents. Il croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, en attendant de rejoindre son cousin Jean-Baptiste pour son baptême dans le Jourdain. Mais que s'est-il donc passé pendant ces 3 jours loin de ses parents à s'occuper des affaires de Dieu ? Jésus était en formation. Bien que fils de Dieu, Jésus a passé du temps à apprendre et à se former. C'est comme cela que la sagesse peut augmenter. À la maison, il a appris un métier aux côtés de son père le charpentier. À la maison, en bon père de famille, Joseph perpétue les traditions au rythme de l'année, des fêtes de Pâques, de Pentecôte et des tabernacles. L'œuvre de Dieu au cœur de l'existence. Toujours se souvenir de ce que Dieu a fait, de ce qu'il donne pour que la vie ait du sens, pour ne pas simplement chercher un épanouissement personnel aux dépens des autres. Mais cet enseignement de base n'était pas suffisant pour Jésus. Il fallait qu'il rencontre les théologiens spécialisés, ceux qui passent leur vie à apprendre et à étudier les choses de Dieu, ceux qui connaissent la Torah, qui l'interprètent et l'enseignent au peuple. D'ailleurs, ils en ont fait un commerce autour du temple à Jérusalem. Ils exercent leur pouvoir avec leur propre tribunal. Ils veillent à ce que l'occupant romain n'étouffe pas cette relation du peuple de Dieu avec d'Israël avec son Dieu. À 12 ans, quel courage pour aller rencontrer ces personnalités directement chez eux. Mais cet enfant bien élevé était brillant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Une partie intéressante de l'enseignement, c'est le jeu des questions-réponses. Plutôt que de subir un cours dit magistral, où le maître expose sa science que l'élève doit ingurgiter et digérer, y compris si le sujet n'a que peu d'intérêt, on peut apprendre efficacement en posant des questions à ceux qui détiennent la connaissance pour qu'ils la partagent. Pendant la fête de Pâques, au moment du repas, l'enfant pose des questions dans le déroulé de la fête de Pessa. Il y a un des enfants, le plus jeune, qui normalement pose des questions rituelles au père et le père donne des réponses. C'est ainsi que l'enseignement doit se faire. Nous lisons dans Deutéronome 6, les versets 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre sa maison. » Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. C'est probablement de cette loi que Jésus parlait avec les docteurs du Temple. Cette loi de Dieu qui a été donnée à un peuple choisi dans le cadre d'une histoire. Dans cette histoire, on rencontre Dieu, le Créateur et Rédempteur. Nous apprenons les intentions de Dieu concernant ce peuple et, par son intermédiaire, à l'égard du reste de l'humanité. La rédemption ne découle pas de l'obéissance à cette loi, elle est simplement le projet de Dieu pour l'humanité entière. Et Jésus est l'élément principal de la mise en œuvre de cette rédemption qui nous tend les bras. Jésus s'est complètement imprégné de cette loi que Dieu avait donnée pour le peuple afin qu'il soit un exemple pour les nations. Lorsque le diable le tente, y compris en citant les Écritures, Jésus répond en citant également les Écritures. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, Deutéronome 8, verset 3, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, Deutéronome 6, verset 13. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, Deutéronome 6, verset 16. Petit à petit, tout au long de son ministère, Jésus se réfère au texte de l'Ancien Testament pour le citer, pour l'interpréter, pour aider à une compréhension selon l'Esprit de Dieu et pas selon un légalisme oppressant, dont le but à l'époque n'était que de préserver et maintenir le pouvoir des religieux du Temple de Jérusalem. Jésus a fini par contrarier ses docteurs en remettant en cause leur compréhension et leur interprétation de la loi que Dieu avait donnée à Israël pour son bien. Pour conclure, les évangiles racontent la vie de Jésus en Palestine, son message, son action parmi ses contemporains. Chacun des quatre auteurs a une approche différente et nous avons la chance de pouvoir les connaître. Luc évoque cette histoire qui fait partie de la légende familiale et qu'on se raconte lorsque les sujets de conversation viennent à manquer, quand la famille est réunie ou qu'il y a un invité qui s'y intéresse. À 12 ans, nous l'avons cherché pendant 3 jours pour finalement le retrouver dans le temple au milieu des docteurs à Jérusalem. Mais Jésus était à sa place, fils de Dieu. Il le rappelle à ses parents, Marie et Joseph. « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Jésus est venu pour faire avancer le projet de Dieu pour les hommes. La rédemption, la réparation de tout ce qui est parti de travers depuis la révolte des hommes contre Dieu lui-même. Jésus a pris sa place dans l'humanité. Il fait partie de cette nouvelle création voulue par Dieu et qui est en construction. Il a été fidèle et obéissant. Il a remis la loi de Dieu au centre de son message pour que les hommes et les femmes puissent vivre en paix sur cette terre. Cette loi qui n'avait pas été donnée pour nous prouver que nous sommes mauvais, mais qui devait rendre la vie plus supportable pour tout le monde et faire d'Israël une nation exemplaire qui puisse être source de bénédiction pour l'ensemble des nations de la terre. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, le retour de Jésus sur terre, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, ressuscité et vivant pour l'éternité. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, versets 2 et 3, comme Anne-Marie a lu tout à l'heure. Que cette espérance nous aide à vivre dans ce monde contemporain et qu'elle nous habite pour ces derniers jours de l'année et pour l'année 2022 qui s'annonce. Amen.
Amen.